J'entends Pierre-Aude, il était en feu en fin de semaine en direct du Grand Prix de Montréal. Et si vous êtes sur Twitter ou sur X, faites une recherche avec Pierre-Aude. Allez dans les trucs les plus récents. Et le premier vidéo que vous allez voir, c'est celui dont on a parlé tantôt avec Gab dans le Top de sport. Vous voulez voir à quel point Pierre est dedans quand le Grand Prix roule du côté de Montréal? C'est pas compliqué, il est quasiment debout sur le bureau. Mais pour l'avoir déjà vu travailler, c'est ça, Pierre-Aude. Ouais. Et ça paraît, puis c'est drôle parce que j'essayais de me l'imaginer quand les feux se sont éteints. Et on roule! Puis là, je dis, tabarnouche, il peut pas être assis, il est ben trop dedans. Effectivement, ses collègues sont assis poliment, tranquillement. Et
Pierre vit la course.
Et Pierre est monté sur le bureau. Ben oui, ben oui. Donc, c'est à voir sur les réseaux sociaux. Comment ça va sur les routes 418-971-1021?
Il y a encore de bons ralentissements à prévoir sur la capitale, direction est entre Henri IV et Laurentienne. Toujours direction est sur Charest, cette fois-ci, il y a un problème à la hauteur de Robert Bourassa. Boulevard Laurier, entre Henri IV et Robert Bourassa, toujours des difficultés à prendre en compte si vous êtes sur Henri IV sud. Ça commence à ralentir à peu près à la hauteur, je vous dirais, de Quatre-Bourgeois jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Guillaume Couture sur la rive sud, c'est difficile un peu avant du saut, puis la 20 direction ouest, là, c'est surtout à la hauteur de Chemin des Îles, évidemment, quoi que ce soit d'autre. 88-9 C'est un 102, un texto.
Élodie, je cite, « J'ai écouté la dernière heure de l'émission et c'est le temps qu'on amène un peu de sérieux. Il y a trop d'espièglerie.
» Bonne chance.
Clairement, elle a pogné notre discussion très mature sur la sexualité.
Sur l'hockey, tu veux dire?
Oui. D'ailleurs, tu sais, Alexander Ovechkin, s'il veut scorer des buts,
ça suffit.
Il peut pas tout le temps utiliser la même feinte. Je comprends qu'il a trouvé son point G là, sur le coin de l'aile, là, mais ça veut pas dire... Non? OK, je suis encore mal parti.
Il y a tellement d'hommes qui n'ont jamais trouvé ça.
Et pourtant, un gars comme Patrick Laine.
Oh, c'est lourd, c'est tellement
tout le temps le même spot, mais hey, tabarnouche,
ben justement,
tout le temps top net.
Change de fille, puis ça sera pas le même spot nécessairement.
Hey, il a scoré ce but-là contre quasiment toutes les équipes de la Ligue.
C'est parallèle, là,
pas moi qui va faire l'éducation sexuelle de mes garçons,
tu
clairement.
Tu nous enverras, OK?
Caroline Gagnon est psychiatre.
Oui, mais là, je vais essayer. Hein. Juste essayer de rétablir un certain équilibre, mais je pense que j'ai déjà lâché prise.
C'est bien. Le lâcher prise, c'est important.
Faut que j'applique ça aussi. Oui, je l'ai dit l'autre jour. Faut que je fasse ce que je dis.
En psychiatrie, le lâcher prise, c'est primordial. Oui. Tu viens de nous parler de mythes qui persistent encore autour de la santé mentale.
Vraiment. Ouais. Vraiment. Je les ai révisés, je les ai mis à jour, je te dirais. Mais c'est pas quelque chose qui vient d'une recherche, mais plutôt l'amalgame d'expériences et de déclarations qu'on fait souvent dans mon bureau.
OK.
Des choses que je me dis, oh, les gens pensent ça, OK.
Encore?
Oui, puis moi, je me dis, je fais de la radio à chaque semaine, je peux-tu déboulonner? Hey, je voulais utiliser le terme déboulonner, je dis jamais ça dans ma vie. Je voulais déboulonner nos pensées, défaire, là, tu sais, comme les mythes autour de la psy, puis tout le cerveau, etc.
Le premier mythe que tu veux déboulonner, ça m'étonne, parce que je me disais, on en parle tellement plus, les gens le réalisent. Un trouble de santé mentale, c'est rare. Il y a encore des gens qui pensent ça.
Il y a des gens qui pensent ça. Ouais. Quand ils arrivent au bureau, ils sont gênés. Alors que 1 sur 4 adultes actuellement au Canada présentent des symptômes de dépression modérés à sévères. Il n'y en a pas présenté dans le passé, il y en a présentement. Je ne te dis pas que tout le monde est déprimé, mais les gens ont des symptômes, 25 %. Puis je trouve que ça correspond aux gens autour de nous qui vont bien, qui ne vont pas bien. Là. Ouais, 25 %, moi je trouve ça de l'allure dans mon réseau à moi.
Le mois de novembre, ça monte à 40 % là, mais ça, c'est normal.
Le mois de mai de pluie aussi.
Oui, le mois de mai qu'on vient d'avoir, ça monte à 60 %.
Un jour ensoleillé, bon, ça baisse à 10, là, on va dire. Mais c'est encore super fréquent. Okay? Puis j'aimerais ça regarder aussi les ados, les 15-19 ans.
Oui.
Eux sont très anxieux et on parle de troubles anxieux, pas juste des symptômes d'anxiété. Là. Troubles anxieux, là, tu ne fonctionnes pas. Là. OK, t'as de l'anxiété puis t'es pas capable d'arriver. Le pourcentage qu'on a, c'est 5,5 %. C'est-à-dire, dans une classe, là, il y a à peu près un élève qui souffre d'anxiété sévère.
Est-ce qu'il y en a plus qu'avant de l'anxiété sévère ou c'est juste que maintenant, on l'adresse puis on le verbalise?
C'est les deux, je pense. Maintenant, on est capable d'évaluer plus. On est plus à l'avant-plan de prendre un jeune puis de l'aider qu'avant. Ça, c'est sûr. On a ça. Mais l'anxiété, je veux dire, dans le temps des hommes des cavernes, ça existait des adolescents anxieux. Tu comprends qu'il y en avait un dans la gang qui avait peur plus des mammouths que les deux autres dans sa fratrie. Puis, ben il y avait un trouble anxieux, dans le fond. Tu comprends? Mais là, on le sait pas parce que là, on va dire ça, mais on n'a pas les études. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que le phénomène
de
l'anxiété...
On n'avait pas les mots pour le mettre dessus.
C'est ça. C'est le système d'alarme intérieure, mm-hmm. l'anxiété. Mais il est bousillé. On pèse dessus, puis oups, il capote, il n'arrête ouais. pas de sonner. C'est ça, l'anxiété, ça n'arrête pas là, d'avoir peur. Le système recommence, puis là, on a un jeune adolescent qui ne fonctionne pas bien avec ça.
Ton mythe numéro 2, c'est drôle, je pense qu'on en avait jasé un petit peu dans les dernières semaines. Les gens avec une problématique en santé mentale sont souvent violents et imprévisibles.
Oui, ça, c'est faux. OK? Sauf que quand il y a un schizophrène qui commet un meurtre, c'est sûr qu'on en parle.
Ouais.
Puis on parle des troubles de santé mentale, on parle de la schizophrénie, tu sais. C'est sûr qu'on va parler de ça, mais c'est 3-5 % des actes violents.
Est-ce qu'on n'aurait pas dû, à un moment donné, distinguer la santé mentale de la maladie mentale?
En fait, la santé mentale, on en a toute une. Tout le monde en a ouais. une santé physique puis une santé psychologique. Donc, quand on dit on s'occupe de notre santé mentale, on présume que là, on implique tout le monde. Puis quand on parle de maladie, là, on a vraiment eu un diagnostic. Mm-hmm. Donc, en effet, il faudrait faire la distinction
parce que
quand on en parle.
Même quand on parle de diagnostic, j'ai l'impression que sur l'échelle de risque, on n'est pas nécessairement à la même place. Tu sais, quand on parle de schizophrénie,
oui.
pour moi, c'est pas la même condition que... quelque autre santé mentale oui. qui peut être diagnostiquée ou maladie mentale plutôt.
Ils ont chacun leur profil, les ouais. maladies, c'est certain.
Et dans toutes les maladies, on s'imagine toujours le pire, ouais. je pense. Ça se peut-tu?
Oui, tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. Puis n'oubliez pas qu'un diagnostic qui est fait précocement, là, adolescent ou jeune adulte, je suis tannante avec ça, les ados, mais c'est important. Mm. Quand on les traite, on a moins de chances qu'il y ait des rechutes plus tard, puis on les outille pour avoir une vie psychologique mm-hmm. meilleure. Fait que ça vaut la peine de regarder nos ados puis nos jeunes adultes, de les accompagner vers une consultation ou avoir de l'aide ou être diagnostiqués s'ils en ont besoin.
Ça m'échappe, là. Peut-être qu'on en a déjà parlé à travers le temps, mais est-ce que ça se transmet?
Il y a une génétique. En effet, il y a une génétique qui n'est pas un porteur comme, par exemple, la fibrose kystique. Là, les deux parents, s'ils sont porteurs, ils ont une chance sur quatre d'avoir un enfant malade. Là, c'est pas ça. C'est plutôt l'ensemble d'une génétique, donc l'ensemble de plusieurs facteurs. Mais oui, dans une famille, par exemple, il y a de la maladie affective bipolaire ou de la dépression, les ados, les enfants vont avoir plus de troubles affectifs, c'est-à-dire des troubles de l'humeur. Donc, ça va être relié. Mais la schizophrénie va être reliée à la génétique, mais tu as des jumeaux qui sont identiques, puis il y en a un qui va présenter la maladie, puis un, non. Donc, c'est pas toujours le cas. T'sais, la génétique s'exprime pas toujours de la même façon chez chacun. Mais oui, il y a tout le temps... On pose des questions, nous, de qu'est-ce qu'il y a dans la famille pour se faire une idée du diagnostic. Ça nous aide beaucoup quand on évalue.
Et il y a des maladies qui sont maintenant diagnostiquées qui ne l'étaient pas il y a 40 ans, puis ça fait en sorte que des fois, c'est en découvrant que ton jeune a quelque chose que tu te dis... Ben oui, mais tabarnouche...
J'ai vécu avec ça toute ma vie, maintenant.
Ouais, ouais, ben j'ai vu ça d'un livre il y a pas longtemps, là. Tu sais, quelqu'un qui découvre son autisme, mettons,
oui.
passé 40
oui.
ans,
le
qui fait des conférences là-dessus à
le ce TDAH, là, c'est un classique. Quand j'étais ouais. en pédopsie, on diagnostiquait l'enfant, puis le mois d'après, c'est la rencontre de suivi. Mm-hmm. Puis tout le monde va bien, la médication, ça va. Puis le père qui lève sa main, je prends la même médication, finalement. Je l'ai essayé. Faut pas faire ça, l'essayer, là. Je suis allée voir mon médecin de famille.
Ouais, ouais, ouais.
J'ai eu mon diagnostic, mais je suis pareil à mon fils. Puis le monsieur qui travaille, par exemple, qui est journalier, tout ça, puis il dit depuis qu'il prend ça que ça fonctionne beaucoup mieux sa vie. Mmh. Imaginons. Fait que là, tu vois l'écart, là, qu'on n'avait ouais. pas tous les diagnostics dans les gens actuellement âgés de 40 ans et plus.
Les maladies mentales, c'est pas vraiment des vraies maladies,
ouais,
ça.
Tu sais, c'est pas vraiment des vraies maladies. Ça, on me le dit souvent, puis les patients même le pensent. Puis il y a une biologie, là, associée à ça.
C'est-tu générationnel? Est-ce qu'on a changé par rapport à ça ou c'est encore une perception qui est...
Je vais dire qu'on a évolué.
Large.
On a évolué. Nos ados, nos jeunes adultes sont plus informés, se promènent, surfent sur Google, vont chercher des choses, commencent à lire, puis à voir qu'il y a une anatomie, il y a une biologie, il y a une chimie. Une neurochimie, c'est-à-dire, avec tous les troubles mentaux. Donc, c'est sûr qu'on commence... Je te dirais, Véro, oui, il y a partiellement un travail de fait,
mais c'est dur
on continue
encore.
De le faire, c'est ça.
Parce que, tu sais, moi, je sais que la maladie mentale est une vraie maladie. Mais mettons, quelqu'un qui souffre de dépression majeure, c'est comme si il y a quand même une pensée du fait que, bien, physiquement, t'es fonctionnel. Tu peux travailler, tu peux aller porter tes enfants à l'école, tu peux... T'es pas en chaise roulante, t'es pas accaparé.
Il y a des choses, mais des gens sont moins fonctionnels au niveau plus cognitif, apprendre quelque chose, leur attention, leur concentration, avoir le goût d'initier un... Tu sais, ils vont faire la cuisine parce qu'il faut manger, pas parce qu'ils ont le goût, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'à un moment donné, la dépression va avoir beaucoup d'impact sur le fonctionnement. Puis ça vient vraiment, moi, je dis ça vient d'une biologie, puis ensuite, il y a des facteurs psychologiques et sociaux, c'est sûr, mais après ma barre, c'est une maladie, comme je te diagnostique un diabète, tu sors du bureau, tu vas te chercher de l'insuline, si tu veux survivre. C'est un peu la même chose.
Ouais.
Je prends souvent cet exemple-là parce que c'est plus facile à comprendre. T'sais, qui refuserait un traitement pour son diabète? Personne. C'est normal, c'est pour la survie. C'est une maladie qui est connue. Ben, c'est pareil pour la dépression, le trouble anxieux, peu importe.
Tu n'es pas alcoolique, tu vas travailler à tous les jours. Non, tu es un alcoolique fonctionnel.
Oui.
Ça arrive souvent.
Oui, puis ça, il faut questionner les gens.
Mm-hmm.
Parce qu'on n'a pas souvent la notion de combien de consommation consomme notre patient. Il veut un peu masquer les choses, verre de temps en temps.
Hein? On a vu ça il n'y a pas longtemps avec notre ami urgentologue. Que, d'ailleurs, ils disent dans le cours, hein,
oui.
Ils prennent le nombre de consommations que tu vas dire que tu prends par semaine puis ils multiplient par deux.
Exact.
Parce qu'ils sous-entendent que tu essaies toujours de... Oui, c'est quoi?
Moi, je dirais, Monsieur Gravel, prenez-vous quoi, une 24 par semaine?
Oh. Non.
Non, une dose?
Oui.
OK. Tu vois? Tandis que si je dis combien de bières vous prenez, une ou deux, là.
Fait que finalement, c'est 24.
Ça peut... Mais voyez-vous, puis c'est pas parce qu'on vous juge, on comprend les consommations d'alcool et de drogue
c'est
aussi.
Pour avoir un portrait.
La SQDC est ouverte, là. Je veux dire, on comprend que c'est légal.
Puis ils font beaucoup d'argent, là. Leurs profits sont en hausse, fait
clairement. Donc, il se passe de quoi? Vous allez... Dites-le dans le bureau, puis c'est comme si vous amenez votre voiture au garage, mais vous dites pas qu'elle fait un bruit, tu sais. Je veux dire, aidez-nous à vous aider. Mmh. Fait que, en parlant de la consommation, il n'y a pas de jugement. On fait juste aider puis voir si c'est un lien avec vos symptômes psy.
J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Des parents absents ou une mauvaise éducation peuvent causer une maladie mentale.
Ça, c'est gros comme pensée. OK? C'est faux dans le sens où il ne faut pas dire « Ah, oh, t'as manqué de quoi quand t'étais jeune et tu as donc une maladie. Mmh. » Oui, ton parent, il avait peut-être une génétique. Il était peut-être anxieux, il avait peut-être un trouble de l'humeur aussi, puis qui n'était pas traité, ce parent-là. Il t'a peut-être négligé à cause de ça. Là, j'achète le fait que c'est en lien avec tes parents sur la génétique.
Ouais.
Et sur la négligence des soins, c'est sûr que l'environnement va jouer sur l'expression des symptômes, c'est-à-dire le parent ne l'amènera pas tout de suite son enfant à l'hôpital. Il va le négliger, il va arriver plus tard dans le système. Donc oui, c'est des facteurs qui vont jouer sur le rétablissement, sur l'évolution des symptômes, mais c'est pas ça qui cause la maladie. C'est pas, t'as pas eu d'enfant, donc tu vas être malade. Oui, ça se peut que t'en aies une, mais vous comprenez la nuance. Mm-hmm. Fait que c'est pas directement relié. C'est pour ça que je dis c'est faux. Mais quelqu'un qui m'écoute pourrait dire, ouais, mais des fois, oui, je comprends ce que vous voulez dire.
Mais disons qu'il y a une prédisposition qui pourrait être accélérée par un contexte familial.
Oui, parce que des parents négligents égale peut-être un diagnostic psy en dessous, mais pas fait parce que, bon, le parent n'a pas fait cette démarche-là.
Avec des efforts, les symptômes peuvent disparaître.
Oui, ça c'est, tu fais de l'anxiété, fais des efforts. Vas-y, mais essaye-toi. T'as une phobie sociale, mais vas-y à ton party.
Ouais, vas-y plus souvent.
Vas-y.
Dans le monde, ça va mieux
c'est
aller.
Ça,
ça marche pas.
Ça marche pas, ça. C'est plate. Ça aide même pas les gens. Ayons de la compassion. Si quelqu'un vous dit « je suis pas capable d'aller là », ah ouais, OK, explique-moi. Raconte-le-moi. Déjà, c'est mieux.
Ouais.
Tu sais, je vais t'écouter.
Quelqu'un qui a le vertige n'aura pas moins le vertige si tu l'envoies tout le temps en haut du cap.
Si je te dis non, tu n'as pas le vertige.
Ouais.
Tu l'as. Mm. Le diabète de tantôt, tu l'as pareil. Mm. Non, n'aie pas le diabète. Fais des efforts pour avoir une belle glycémie. Les efforts, oui, tu vas les faire par rapport à la nourriture. Uh-huh. Mais tu comprends? Donc, ce n'est pas une histoire d'efforts puis de faiblesse. Je pense qu'il y en a un autre qui va recouper ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas en faisant des efforts, c'est en faisant des démarches pour se connaître, aller chercher de l'aide, se comprendre, c'est comme ça qu'on va émerger d'un épisode.
Mm-hmm.
C'est pas... Puis là, vous allez me dire, ouais, mais si je suis fatiguée, il faut que je fasse des efforts de m'exposer à faire un peu d'activité. Je suis d'accord. Mais l'effort n'est pas la clé de toutes les choses. Mais oui, on va vous demander des petits efforts. Venir au bureau, faire une psychothérapie, c'est pas toujours le fun, là. Il y a des patients qui rentrent, fait, j'avais pas le goût aujourd'hui, il fait beau.
Il y a personne.
J'avais le goût de dire, moi non plus! J'adore mon travail,
fait
mais aujourd'hui...
Pour toi aussi!
C'est ça, si j'avais le droit, on ira au plein marché, puis je vous parlerai en même temps, mais j'ai pas le droit. Fait que, je vous comprends. Dans ce sens-là, je me révèle. Comme je vous ai dit la semaine dernière, je le dis aux patients, moi aussi, j'aimerais ça être dehors. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. On va trouver, bon, X, Y, Z dans votre situation. Puis là, oups, on embarque.
Pourquoi
ça? Ça demande un effort pareil, là.
Tu dis, on n'a pas le droit, mais il me semble, je suis sûre qu'il y a tellement de gens qui... J'ai déjà entendu parler de thérapie
en
nature.
Il y a des intervenants, qui, éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux qui peuvent aller... chez les patients, même à domicile, ça, être en présence, là, pas seulement en téléconsultation.
Mais en psy, non.
Prendre une marche, aller marcher avec un patient, c'est faisable par plein d'intervenants là, en psy. J'entends infirmières, tout ça dans l'équipe multidisciplinaire. Nous, les psychiatres, on nous a pas mal placés dans un bureau. Mais quoi que je sortirais du bureau, marcher avec un patient, je pense pas que ça serait... Je serais pas poursuivie pour ça, mais c'est pas dans la façon classique de pratiquer. Okay. C'est plus face à face. On est dans un cadre qui est toujours le même. Puis à partir de là, on partage.
Tous les troubles mentaux se traitent avec des médicaments. Non, hein? Non.
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 c'est pas tous les troubles. Il y a des troubles qui se règlent sans médication. Puis ça, c'est peut-être surprenant pour vous. Peut-être vous pensiez maladie mentale égale pilule. Oui, fréquemment, on a des molécules, mais il y a des troubles. Si j'ai un trouble de l'adaptation, je sais pas, je viens d'avoir un bébé, puis j'ai changé de ville, puis je vois une travailleuse sociale au CLSC, je suis vraiment en trouble de l'adaptation. Elle m'aide. J'ai pas besoin de médication finalement, parce que la maman allaite, mettons, on lui donne pas de pilule, on la suit aux semaines. Après 12 semaines, la dame s'améliore. Puis finalement, elle a eu un épisode de sa santé mentale. Fait que c'est pas vrai, si vous avez jamais pris de pilule pour l'aspect psychiatrique, vantez-vous pas que vous avez pas eu de maladie. Vous pouvez en avoir une. La preuve, quand vous êtes ado, vous avez peut-être fait de l'anxiété, vous avez pas consulté pour ça. Mais elle est restée pendant des mois. Donc, la médication, c'est une option intéressante, mais pas toujours présente.
Mm-hmm. Pareil comme, mettons, quelqu'un qui fait de la haute pression, selon où, à oui. quel endroit il se trouve. Des fois, tu vas ajuster ton alimentation puis tu n'auras jamais besoin de prendre
le cholestérol,
de médication pour.
Tu sais, les gens, c'est leur alimentation, puis il y en a qui évitent la médication. Fait que c'est pas parce qu'on prend pas de médicaments qu'on n'a pas le diagnostic, mm-hmm. mais on fait d'autres choses avec ça.
Oui, vas-y.
Ben, j'allais dire, est-ce que la médication, tu peux la prendre de façon momentanée?
Selon certaines situations, OK. Si tu faisais une psychose, par exemple, tu aurais une dose d'antipsychotique assez élevée au départ, puis plus tu irais bien, plus on pourrait diminuer puis en retirer cette médication-là, éventuellement. Mmh. Si
mais il y en a qui en ont besoin toute leur vie.
Exact.
Aussi.
Il y en a que là, on fait juste diminuer un petit peu, puis on voit que, oh, non, on remet la dose ancienne.
La dose fonctionnelle.
L'antidépresseur, souvent, on le prend un an, premier épisode, puis parfois un autre épisode, ben là, on va conseiller de le prendre plus longtemps. Ça dépend, c'est sûr, de chaque patient, là, on évalue. Mais oui, Audrey, il y a les deux modalités. Soit il y en a une que, tu sais, les gens qui prennent, par exemple, du lithium, du tégrétol, tu sais, tout ce qui est pour la stabilisation de l'humeur, pour nous, ça, c'est du long terme. Ça, c'est plus du long terme. Il ne faut pas qu'ils arrêtent ça tout seul à la maison. Il faut qu'on le sache.
Caro, ça, j'ai l'impression que c'est un mythe qui est genré. Tu as un problème de santé mentale, c'est un signe de faiblesse.
Malheureusement. Ça vient avec le fait que je vous dis toujours que les hommes ne consultent pas.
Ouais.
Parce qu'ils se disent, voyons, je ne suis pas un faible.
J'étais assez fort pour passer à travail.
Ben oui, t'es ouais. fort. Tu lèves quoi au gym? C'est parfait. Merveilleux. Bravo.
Moi, je pleure muscles. Pas. Je suis pas
c'est
un faible.
Ça? C'est ça.
Yes.
Alors, ce n'est pas une faiblesse. C'est l'inverse. C'est du courage. C'est une démonstration de courage.
C'est dur, ça. Moi, ce bout-là de démarchage.
Un gars qui arrive de mon âge dans mon bureau puis qui me dit, ça ne va pas du tout, puis j'ai décidé de consulter par moi-même. Là. J'ai comme, wow. Quel courage de pas travailler ce matin-là pour venir en thérapie,
step,
d'aller porter ses enfants à la garderie parce qu'il veut venir puis être vraiment, tu sais, bien faire les choses. C'est quelque chose qui est plein de courage. Donc, c'est surtout pas de la faiblesse avoir des symptômes d'une maladie puis de consulter. Vraiment, c'est l'inverse. Mais il faut encore travailler. C'est pour ça que je me dis, ça peut peut-être atteindre des gens aujourd'hui, ce qu'on dit. Quelqu'un.
C'est pas un signe de faiblesse d'aller faire réparer son char parce qu'il est brisé.
Et voilà.
Voyez ça un peu de la main.
Exact.
J'aurais une parabole de hockey, mais on me dit
non.
d'arrêter d'en
ça,
faire.
C'est non.
Ouais, c'est ça.
Si vous avez peur du jugement, là, pas obligé d'en parler à vos proches que
ouais.
vous commencez des démarches. Hein.
Parfait.
Puis il y a un tas de services qui sont disponibles.
Ils peuvent faire ça. Exactement. Puis dans le processus, peut-être, de la thérapie, ils vont identifier qu'ils vont le dire à leur famille.
Peut-être.
Peut-être que ça va être un but
ouais.
dans 6 mois, 12 mois. Puis peut-être que ça va durer quelques séances, hein, votre besoin. C'est pas nécessairement 10 ans de psychothérapie psychanalytique là, que vous avez besoin. Si ça se peut que ce soit un 4-5 sessions, puis ça va mieux. Donc, faut pas avoir peur de s'impliquer dans un cheminement.
On n'est pas loin de l'autre mythe. Ça prend absolument un psychiatre pour traiter un problème de santé mentale.
Alors non, ça prend pas juste... C'est un psychiatre, oui, c'est dans un contexte précis, hospitalisation, cas plus sévère, on appelle ça la troisième ligne, là, nous, dans notre jargon. Première ligne, c'est médecin de famille, peut vous voir, vous évaluer. L'équipe au CLSC peut vous voir. Il y a des travailleurs sociaux privés qui font de la consultation, des psychoéducateurs qui font de la très bonne job, qui accompagnent des patients avec des troubles de santé mentale, puis qui font le cheminement. Donc, c'est pas toujours le psychiatre. Et faut enlever ça que c'est de la psychiatrie tout le temps qui est institutionnelle. Que c'est
parce que
là,
ça, c'est l'autre affaire, l'étiquette avec la psychiatrie,
oui.
c'est que c'est des colos, puis
c'est
la ceinture.
C'est pas au-dessus d'un coucou, c'est Alice Robbie.
La camisole attachée.
Ce dont on a parlé, là, ouais. ça fait une petite rétrospective de ce qu'on a parlé quand on parlait de l'Institut puis de l'histoire de la
ouais.
psy. Là. On n'est plus dans la psy des années 1900, là, pas du tout. Donc, c'est vraiment, vraiment cet aspect-là. C'est pas juste le psychiatre. Puis si c'était juste nous qui traitait, on n'en arriverait pas.
Mais je trouve qu'il y a un aspect positif à ça aussi, dans la mesure où, à cette affirmation-là, je veux dire. Là,
oui.
Dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui ont des troubles de santé mentale ou des dépressions ou des bref, ça va pas, qui pensent qu'il faut absolument qu'ils voient un psy. Mais tu peux voir un travailleur, une travailleuse oui. sociale.
Ah,
oh,
puis
voir...
c'est peut-être
toutes
même...
Il y a toutes sortes d'intervenants.
Moi, je vais prendre un exemple. Je veux dire, tu fais une dépression, des fois, c'est juste de parler à quelqu'un qui
ben
est
oui.
passé par là, qui te fait réaliser que t'es loin d'être seul dans ta situation, puis que... Parce que souvent, les gars, on n'a pas les mots pour décrire comment ça se vit à l'intérieur. Puis des fois, tu vas croiser quelqu'un qui est passé par là. Peut-être quelqu'un qui a fait de la thérapie alors que toi, t'en as pas fait. Puis là, il va arriver et dire, regarde, tu files de même, hein? Tu files de même. Hein? C'est comme ça que tu te sens. Hein? Tu fais de l'ivresse mentale, tu fais telle affaire. Puis là, toi, ça va être la révélation. Toi, ça va être l'électrochoc qui fait en sorte que tu vas te prendre en main d'une part, mais que tu vas réaliser aussi que ton problème n'est pas unique. Puis ça, c'est un point important. C'est un
puis d'en parler, c'est ça aujourd'hui aussi, c'est d'en parler pour que les gens le disent, puis que ça inspire des amis, des connaissances, à le faire aussi, tu sais, que tout le monde, on aille chercher de l'aide.
Ça doit faire drôle si quelqu'un rentre dans ton bureau puis qu'il te dit « Hey, faire de la psychothérapie, c'est du pelletage de nuages. C'est cher de l'heure, pelleter des nuages. »
C'est pas facile à entendre quand on fait ça à temps complet de sa vie. Dans le fond, pelletage de nuages, je comprends qu'est-ce que veulent dire certaines personnes, que des fois, on est dans la théorie, les psys, puis on tombe trop dans le père, la mère, etc., là, les théories. Donc, ça, je comprends ce que vous voulez dire. C'est, des fois, c'est un peu trop théorique pour certaines personnes, mais dites-vous que quand on parle à un patient pendant une heure puis qu'on regarde les symptômes puis qu'on essaie de s'expliquer les affaires, c'est pas du pelletage de nuages. Au contraire, on est vraiment sur la terre ferme avec le patient, dans sa vie. Fait que c'est vraiment concret. Puis selon le patient, s'il veut travailler de le passé parce qu'il en a besoin, c'est correct, là. Mais on le fera pas tout le temps comme ça.
Ouais.
Parfois, ça va être différent, on va être dans le quotidien. Ça dépend du patient. Donc, on n'est pas dans les nuages du tout, on est dans vraiment le train-train quotidien.
Ça sert à rien de parler de santé mentale dans les médias.
C'est un petit clin d'œil que j'ai inventé un peu ce mythe, mais c'est parce que je me disais, probablement que j'ai déjà parlé de tout ça déjà dans les dernières années avec vous, mais de reparler que c'est des mythes puis qu'il ne faut pas vivre à partir de ces mythes-là, c'est pas des réalités. C'est important de le faire.
C'est pas tout le monde qui est rendu à la même place, puis quelqu'un que ça ne concernait pas il y a quelques années. Peut-être que là, à ce moment-ci, c'est le bon moment que le message passe.
Exactement, tu sais. Puis on n'en parle jamais assez, selon moi, que ce soit la radio, la télé, peu importe les médias, les réseaux sociaux. D'après moi, c'est super important qu'on continue quand même s'il y a un chemin de fait. Je pense qu'il y a de la matière pour continuer ce cheminement-là avec les gens.
C'est la semaine dernière qu'on recevait les gens du Centre de prévention du suicide.
Absolument.
Puis, tu sais, il y a un mythe particulièrement tenace sur... Ouais, parler de suicide dans les médias et ainsi de suite. Puis elle, elle disait justement, non, faut en parler. Puis faut justement ouvrir le dialogue. Oui, Audrey?
Il y a quelqu'un qui nous dit, je traverse la pire période de ma vie niveau santé mentale en ce moment. Puis de vous entendre en parler, ça fait un bien fou. Merci de faire la radio que vous faites. Fait que je tenais juste à lire parce que pour moi, ça représente drôlement. Ça représente la dernière affirmation.
C'est ça, parce qu'on est dur avec soi. Lorsqu'on est malade, le patient, il rumine.
Oui.
Il se sent pas utile. Il se questionne sur sa valeur. Il pense qu'il n'est pas correct parce qu'il peut pas aller travailler, parce qu'il y a des symptômes. C'est une maladie. On la traite, puis ça va aller.
C'est se faire un beau cadeau de prendre soin de soi-même. Oui. Là, pour vrai, là, je m'adresse à la personne qui vient d'écrire. Là.
Oui.
N'hésite pas, justement, à aller poser des questions, à partager ce que tu vis. Le début d'un beau chemin.
Puis les gars, je pense qu'entre vous, il y a quelque chose qui se passe quand vous en parlez. Nous aussi, les filles, mais j'ai l'impression que les gars, quand vous en parlez, il y a quelque chose de vrai qui fait que ça va inciter ton ami à aller consulter également, tu sais.
Il y a des choses qui changent autour de nous autres, puis il y a des gens que ça dérange, mais ils comprennent pas. Tu sais, des gens qui, pendant des années, vivaient des choses en secret, puis là, whoop, là, ils ont la liberté d'en parler, ils ont la liberté d'être ce qu'ils veulent dans la vie ou whatever.
Ouais.
Je pense que les gars, au niveau de la santé mentale, c'est un peu la même chose. Quand vous commencez à parler de ces choses-là, puis que vous en avez jamais parlé de votre vie, vous allez voir, ça fait du bien. Fait du bien de partager, fait du bien d'échanger, fait du bien de réfléchir, puis il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour starter.
Je pense à toutes les conjointes de ces gars-là qui vont consulter.
Ouais.
Que quand leur chum arrive le soir puis qu'il dit « Hey, je vais te raconter. Aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose. » Puis ça doit être merveilleux pour le couple. La discussion, la communication, comment ça enrichit la compréhension de l'autre qui nous partage qu'est-ce qu'il a vu en consultation dans sa journée.
Hey, moi, parler de ce que je vis, là, c'est de l'ouvrage. Là. J'aime pas ça, là. Mais tabarnouche, on se rend service.
C'est vrai.
Ouais. Hey, Caro, merci beaucoup.
Merci à vous.
Toujours le fun de jaser de ces choses-là. Des mythes qu'on tente, en tout cas, je pense que tu as réussi à déboulonner un peu au sujet de la santé mentale. Caroline Gagnon, qui est psychiatre. On fait une courte pause, on revient. Vous êtes à Boulevard, il est 17h38. Gravel dans le